présenté ce soir par vous, Aurélie Kiefer. Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. À peine lancée dans la campagne pour Paris, Agnès Buzyn s'est entretenue avec l'ancien marcheur Cédric Villani, lui aussi candidat. Un rapprochement est-il possible ? Analyse dans un instant de Rosalie Lafarge. L'Union européenne va déployer une nouvelle mission navale à l'est des côtes de la Libye. Objectif, empêcher le trafic d'armes. Explication de Pierre Benazet. Après Singapour, le Japon est le plus touché par l'épidémie de coronavirus en dehors de la Chine et les autorités s'inquiètent. Nous irons à Tokyo. Et puis Aurore Berger se soucie de la santé culturelle des Français. Le rapport que la députée LREM vient de remettre au Premier ministre plaide pour un meilleur accès à la culture. Elle a quitté ce matin le ministère de la Santé, passé avec émotion le relais à Olivier Véran pour aussitôt se lancer dans la campagne électorale à Paris. Agnès Buzyn n'a que 4 semaines pour convaincre les Parisiens après l'abandon contraint de Benjamin Griveaux. L'ex-ministre a déjà déjeuné avec l'ensemble de ses têtes de liste, sans préciser dans quel arrondissement elle comptait elle-même se présenter. Et ensuite, elle s'est entretenue au téléphone avec Cédric Villani, le candidat dissident de la majorité. Agnès Buzyn saura-t-elle rassembler, comme veulent le croire ses soutiens ? Pour l'instant, Rosalie Lafarge, le mathématicien, pose ses conditions.
Oui, il réclame d'abord des concessions dans le programme sur l'écologie, la démocratie, la métropole. Et c'était presque prévisible en fait. Dans l'équipe Villani, des avances coup de fil à la mi-journée, le ton était donné.
On ne s'improvise pas aujourd'hui maire de Paris à 30 jours de l'échéance.
Et vu les mots ce matin de Ryan Nézard, le porte-parole du mathématicien, on sentait déjà cette volonté du clan Villani de se placer en position de force et de refuser un ralliement façon un peu béni-oui-oui du dissident.
Non, il y aura des bulletins de vote Cédric Villani et le Nouveau Paris, c'est très clair, le 15 mars, parce que aujourd'hui c'est celui qui peut rassembler le plus largement des écologistes jusqu'à la droite progressiste, celui qui peut rassembler parce qu'il est en campagne depuis un an sur le terrain. C'est Cédric Villani.
Pas question donc de s'effacer avant le premier tour, ce qui est de toute façon difficilement envisageable. Et pas seulement pour des raisons de posture et de stratégie politique, souligne le politologue Bruno Cotresse, chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po.
C'est aussi une simple question de dépenses. Il y a des montants maximum de dépenses de campagne. Et si les dépenses effectuées par l'équipe de Cédric Villani étaient affectées au compte d'Agnès Buzyn, pratiquement celle-ci n'aurait plus droit à dépenser quoi que ce soit. Donc on voit qu'il y a aussi des considérations proprement matérielles qui rendent difficile une fusion carrément des listes Villani et des listes Buzyn avant le premier tour.
La porte semble bien fermée pour le premier. Elle l'est moins pour le second tour. Avec une autre condition préalable, le mathématicien réclame l'ouverture du parti présidentielle a un accord avec les Verts. Mais si Agnès Buzyn n'a pas encore dit oui, pas sûr d'ores et déjà que les écologistes en aient envie.
Rosalie Lafarge, la suite de l'enquête sur la diffusion de vidéos intimes ayant poussé Benjamin Griveaux à retirer sa candidature à la mairie de Paris. Piotr Pawlenski et sa compagne Alexandra de Tadeo ont été déférés au parquet à l'issue de leur garde à vue. Et l'enquête va être confiée à un juge puisqu'une information judiciaire sera ouverte demain. Le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, a donné le coup d'envoi des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée. Dans une ambiance assez chahutée, il a vanté un texte dont l'ambition, selon lui, est grande et même immense. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, a proposé au groupe politique 100 heures de débats sur 3 semaines pour examiner la réforme qui a fait l'objet de 41 000 amendements. La députée La République En Marche, Aurore Berger, plaide pour un renforcement de l'accès à la culture. Elle vient de remettre 60 propositions au Premier ministre, dans rapport dans lequel elle propose de faire des droits culturels la pierre angulaire d'une politique de démocratisation culturelle renouvelée. La députée veut promouvoir la santé culturelle dès la naissance. Ce concept de santé culturelle est une idée de la psychologue et psychanalyste Sophie Marinopoulos. Elle a expliqué plus précisément de quoi il s'agissait à Adrien Palluet.
Ce que j'appelle la santé culturelle, c'est la santé de nos relations, en rappelant qu'un enfant qui vient au monde, pour s'inscrire dans le monde des humains, il va rentrer en relation avec un autre que soi. Et nos enfants sont de plus en plus en mauvaise santé dans les relations humaines. Bien sûr, on peut parler des écrans, mais on peut aussi parler de la rapidité des vies d'aujourd'hui, où les bébés sont projetés dans une telle vitesse de la vie qu'ils n'arrivent plus à faire les expériences fondamentales qui leur permettent de s'ouvrir à la relation à soi et aux autres. Il faut donc qu'on passe par l'éveil culturel et artistique de nos tout-petits. Quand on lit un livre à un bébé, on prend du temps avec lui. Quand on l'emmène à un spectacle, on va éprouver des émotions avec lui qu'on va pouvoir ensuite partager.
Est-ce que ça veut dire qu'un médecin peut prescrire, par exemple, 1 heure de lecture par semaine par les les parents?
Alors, ça va pas être sur ce mode d'ordonnance, mais ça permettrait au médecin de pouvoir parler avec le parent au-delà du rapport à la nutrition, au sommeil, pour justement connaître cet enfant dans sa partie éveil. Comment est-ce qu'on lui propose des livres? Est-ce qu'il arrive qu'il aille dans les bibliothèques ou est-ce qu'il va dans la nature? Eh bien, déjà là, on voit bien qu'on tendrait vers de l'égalité en faisant en sorte que les espaces culturels soient ouverts à tous. C'est penser une politique culturelle à dimension sociale dans tous les espaces où il y a des bébés et les parents. C'est penser nos villes, les rendre plus accessibles aux tout-petits et à leurs parents.
Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste. Le gouvernement présente de bons chiffres en matière de lutte fiscale. En 2019, les contrôles fiscaux ont permis de récupérer 9 milliards d'euros. Le fisc a notamment pu recouvrer 785 millions d'euros de droits et pénalités grâce au data mining, le croisement des données. Vous venez de suivre les annonces à Bercy, Catherine Pétillon.
Oui, la fraude fiscale, ce sont plusieurs milliards qui échappent à l'État et ne peuvent plus être investis dans les services publics, a rappelé Édouard Philippe, venu à Bercy pour ce bilan. En 2019, vous le disiez, les contrôles fiscaux ont permis de récupérer 9 milliards. À cela s'ajoutent 500 millions d'amendes versées par Google et 360 millions issus de la régularisation des comptes à l'étranger. Notons quand même que 9 milliards, ce n'est que 60% des sommes modifiées et qui donc devraient être récupérées. Il est un point sur lequel Gérard Darmanin a insisté. Il veut davantage cibler les contrôles et pour cela, il compte sur le data mining, un terme anglais pour désigner l'exploration des données et leur analyse, notamment via des intelligences artificielles. Alors en l'occurrence, les données, ce sont les comptes bancaires, déclarations d'impôts, URSSAF, le patrimoine immobilier. Ça permet de repérer une entreprise qui minore son chiffre d'affaires comme un particulier dont le niveau de vie ne correspond pas aux revenus déclarés. Pour ce travail, une équipe de 26 personnes ont été recrutées et en 2019, près de 800 millions d'euros ont été mis ainsi en recouvrement. 17% des contrôles fiscaux viennent de là et l'exécutif vise 50% d'ici la fin du quinquennat. Il veut même aller plus loin. Rappelez-vous, dans le cadre de la dernière loi de finances, le ministre avait annoncé sa volonté d'élargir le dispositif au contrôle des réseaux sociaux des particuliers. La CNIL avait alors alerté sur les risques en matière de respect de la vie privée. Les décrets permettant sa mise en œuvre doivent encore être transmis au Conseil d'État. De leur côté, les syndicats estiment que ces outils informatiques ne sont qu'une pierre des dispositifs de contrôle fiscal. Ils soulignent, comme l'a aussi fait récemment la Cour des comptes, que le manque de personnel pour effectuer les contrôles sont autant de failles dans la lutte contre la fraude fiscale.
Catherine Pétillon à Bercy avec les moyens techniques de Romain Lucquens. Le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim sera définitivement arrêté dans la nuit de vendredi à samedi. La centrale doit cesser de fonctionner le 30 juin avec l'arrêt de son second réacteur. Un événement salué par les écologistes mais qui préoccupe les acteurs locaux. Pour amortir l'impact économique lié à la fermeture de la centrale qui générait près de 2000 emplois, ils ont signé l'année dernière un projet de territoire avec l'État. On commence tout juste avoir émergé du concret, Adrien Toffolet.
Sur le papier, il y a pourtant de grandes ambitions. Création d'une SEM cette année, une société mixte franco-allemande, avec 1 million d'euros de capital et l'implication de tous les grands acteurs des deux côtés du Rhin. Un outil opérationnel qui doit permettre le redéveloppement de la zone économique Ecorena au nord de la centrale. 80 hectares de foncier pour attirer de nouvelles entreprises, le futur poumon économique du territoire. Mais certains arguments pour séduire l'Allemagne sont encore en négociation. Myriam Paris est la directrice de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar.
Nous souhaiterions qu'il y ait une fiscalité attractive. Les Allemands attendent beaucoup un droit du travail spécifique sur cette zone. Ils ont toujours beaucoup d'appréhension par rapport au droit social, droit de la sécurité sociale français. Et ça, ce sont des choses que nous soutenons. Si ça peut se faire, ce serait effectivement une première, quelque chose d'expérimental et qui permettrait très certainement d'attirer rapidement des entreprises intéressantes.
Et quand bien même Ecorena voyait le jour comme prévu l'année prochaine, il faut s'attendre à une période de transition de 2 à 5 ans avant qu'elle ne soit pleine et on serait toujours loin de ce qu'apportait la centrale en nombre d'emplois. D'ailleurs, Claude Brender, le maire de Fessenheim, mise également sur un autre projet porté par EDF dans le cadre du projet de territoire, l'installation sur le site de la centrale d'un technocentre, encore une fois lié à l'activité nucléaire.
C'est le traitement des métaux qui sortent des centrales nucléaires, donc des grosses pièces métalliques qui peuvent être fondues, remises sur le marché après traitement pour être réutilisées en fait dans le cadre de nouvelles constructions de centrales nucléaires ou autres pièces métalliques. Et donc là, ça serait entre 150 et 180 emplois.
Mais il ne serait créé qu'une qu'une fois le démantèlement de l'actuelle centrale achevée, donc dans 20 ans, de quoi laisser le temps aux antinucléaires de dénoncer ce nouveau projet et le risque de pollution des nappes phréatiques qu'il entraînerait. C'est une folie pour André Hatz, le président de Stop Fessenheim. Pour lui, les pouvoirs publics ne se sont jamais laissé le temps de réfléchir à l'après-centrale. Tous les projets, dont celui de la zone binationale, auraient pu être lancés bien avant.
Nous avions découvert en 2012 que les industriels de Bremgarten, le petit village allemand qui est à 3 km à vol d'oiseau, avaient un projet d'extension de leur zone d'activité, mais ne pouvaient pas le faire parce qu'ils étaient contraints par le foncier. Et ils pensaient pouvoir s'étendre côté français, où il y a beaucoup de fonciers et où il y a du chômage. Mais aucun élu local à qui nous en avions parlé n'a voulu entendre ceci parce qu'ils étaient dans le déni de la fermeture de la centrale.
Une accusation balayée par le maire de Fessenheim. Anticiper, c'est impossible. Pour lui comme pour de nombreux élus locaux, il y a eu trop de tergiversations de la part des gouvernements successifs et pas assez de préparation.
Les conditions de fermeture de Fessenheim ne sont pas exemplaires, alors que c'était le maître mot de ce qu'on entend depuis 3 ans. On va faire une fermeture exemplaire. Eh ben, nous on dit chiche, mais mettez les moyens. Accompagnez les collectivités pour retrouver de l'emploi, pour retrouver de la fiscalité.
Et on ne peut pas dire que le gouvernement ait été très clair sur ses dernières ambitions. En janvier, la ministre de la Transition écologique a finalement émis des doutes vis-à-vis du projet de technocentre. Ça ne me paraît pas forcément une piste facilement concrétisable, tranche Elisabeth Borne, sans même donner de solution de secours.
Adrien Toffolet, le reportage de la rédaction de ce matin portait sur les conséquences sociales de la fermeture de la centrale de Fessenheim. Vous pouvez le lire et l'écouter sur franceculture.fr. C'est l'un des grands enjeux technologiques de cette année. Le développement de la 5G doit permettre de rendre plus rapides et puissants les réseaux de communication mobile. Les procédures d'attribution des fréquences aux opérateurs télécoms ont commencé fin décembre. On est encore en phase d'expérimentation. Mais en France, chaque opérateur téléphonique devra couvrir 2 villes avant la fin de l'année. Un déploiement redouté par plusieurs associations qui s'inquiètent des conséquences environnementales et sanitaires que pourrait avoir cette nouvelle technologie. Bonsoir Audrey Dumain.
Bonsoir Aurélie.
Les associations Priartem, Électrosensibles de France et Agir pour l'environnement ont décidé de saisir la justice. Elles ont déposé 4 recours auprès du Conseil d'État, Audrey. Elles espèrent obtenir la suspension des arrêtés et décrets permettant le déploiement de la 5G en France.
Ah oui, car la 5G doit arriver dans les mois à venir, d'ici juin prochain dans les premières villes. Et pour les associations, cela va tout simplement trop vite.
On ne souhaite plus jouer les cobayes. Donc là, nous, on dit stop 5G, ça suffit.
Sophie Pelletier est la présidente de l'association Priartem.
Nous, dans notre association, on voit arriver des gens qui sont dans un état catastrophique parce qu'ils n'arrivent plus à dormir, parce qu'ils ne peuvent plus rester chez eux, parce qu'ils sont entourés de Wi-Fi, de smartphones de leurs collègues, etc.
Alors aujourd'hui, aucune étude ne prouve que la 5G peut avoir un impact sur la santé. Dans son dernier rapport, l'Agence de sécurité sanitaire signale même un manque de données sur le sujet. On ne connaît pas, par exemple, l'impact sur le corps humain des nouvelles fréquences utilisées. Et c'est tout le problème, selon leur avocat, maître François Laforgue.
Il y a un principe qui s'impose, qui est le principe de précaution, qui suppose que quand il y a des incertitudes scientifiques sur l'impact d'une nouvelle technologie sur la santé humaine, eh bien on doit prendre toutes les précautions qui s'imposent, faire des études, et seulement quand l'innocuité est prouvée, eh bien à ce moment-là, on peut déployer d'autres technologies.
Depuis 2013, l'ANSES recommande en tout cas de limiter les expositions liées à l'utilisation des smartphones, mais les deux associations dénoncent aussi les conséquences de la 5G sur notre environnement. Stéphane Kerschen, délégué général d'Agir pour l'environnement.
La 5G est principalement justifiée pour accompagner l'explosion du streaming qui a une conséquence sur notre consommation d'électricité et sur le bilan carbone du numérique qui est passé de 2,4 à 3,7% en quelques années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on assiste à une explosion du bilan carbone du numérique.
Stéphane Kerschen, pour qui il est temps de faire les bons choix et de prendre plus de recul sur nos pratiques numériques.
Audrey Dumain. Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour lancer une nouvelle mission aéronavale visant à empêcher l'acheminement d'armes en Libye. L'Autriche a finalement levé son veto à ce projet. Les opérations en Méditerranée vont donc être relancées pour éviter une nouvelle escalade de la violence en Libye. Relancées, mais pas tout de suite, Pierre Benazé, parce qu'il y a encore des détails à peaufiner.
Oui, effectivement, les Européens doivent se mettre d'accord sur le mode opératoire de leur future opération, sur les règles d'engagement ou bien les moyens matériels qui seront mis en œuvre. C'est l'état-major militaire de l'Union Européenne qui va devoir mener à bien ce qui est présenté ici uniquement comme un réglage des points de détail. Des détails qui comprennent tout de même des points majeurs comme les contributions militaires des différents pays. En revanche, pour les Européens, le plus important est qu'ils disposent désormais d'un accord politique unanime, ce qui devrait entraîner un accord automatique des 27 lors de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères. Pour le le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, c'est un résultat inespéré au vu des dissensions préalables entre les 27. Et la nouvelle opération pourrait donc être mise en œuvre dès la fin mars. Son nom de baptême n'est pas encore décidé. Mais cette opération remplace Sophia, qui arrive à échéance le 20 mars, et n'avait plus de bateau depuis 11 mois à cause des désaccords sur le lieu de débarquement des migrants secourus en mer. La nouvelle opération aura des moyens radars et satellitaires, ainsi que des navires. Sa zone d'opération sera concentrée sur les eaux orientales de la Libye, contrairement à Sofia, qui couvrait toute la côte libyenne. Et cette zone a été choisie d'une part car c'est la zone où se concentre le trafic d'armes par voie aérienne et navale, et aussi parce que les Européens estiment qu'il y a peu de migrants qui prennent la mer dans cette zone. Cependant, pour emporter l'adhésion de certains, et surtout de l'Autriche, il a été prévu que les opérations navales pourraient être suspendues si elles devaient agir comme un appel d'air pour de nouveaux embarquements de migrants qui espéreraient ainsi être secourus en mer par les navires européens.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. La lutte contre la propagation du virus Covid-19 se poursuit en Chine et dans les autres pays touchés. Au Japon, les efforts se sont d'abord concentrés sur l'organisation de la quarantaine à bord du Diamond Princess, paquebot placé donc en quarantaine dans le port de Yokohama. Mais le gouvernement japonais prend maintenant conscience de la gravité de la situation au sein même de sa population, Yann Rousseau.
Le Japon est très inquiet. Certes, il y a les personnes infectées à bord du paquebot, mais il y a aussi maintenant plusieurs foyers de contamination dans des villes de province qui n'ont aucun lien avec le navire. Et les médecins constatent de plus en plus d'infections secondaires ou tertiaires, c'est-à-dire une personne qui a eu un contact avec probablement un visiteur chinois fin janvier, qui a ensuite contaminé un membre de sa famille, qui a à son tour contaminé d'autres personnes de son entourage. Alors officiellement, le gouvernement refuse de parler ce soir d'épidémie. Nous ne sommes pas dans un scénario à la Wuhan, Martel Tokyo, mais l'inquiétude est forte et les autorités ont décidé d'annuler plusieurs grandes manifestations publiques où des dizaines de milliers de personnes étaient attendues. Le marathon de Tokyo ne pourra pas se tenir normalement à la mi-mars et la semaine prochaine, l'empereur célébrera son anniversaire dans l'intimité. Il n'y aura pas d'apparition devant la foule au cœur du palais impérial comme c'est généralement la tradition. Les Japonais ont bien compris l'angoisse de leur gouvernement et ce soir, beaucoup de restaurants sont anormalement vides.
Yann Rousseau à Tokyo. Après le Roundup, un autre herbicide est dans le viseur de la justice américaine, le dicamba. Ce pesticide était produit à l'origine par la firme Monsanto qui a été rachetée depuis par Bayer. Le groupe allemand vient d'être condamné en même temps qu'une autre compagnie allemande, BASF, par un tribunal du Missouri. Ils vont devoir verser près de 250 millions d'euros à un cultivateur qui accuse le pesticide d'avoir contaminé ses vergers, Loïc Loury.
Près de 200 hectares de pêcher sur 450 000 arbres, voilà, assure-t-il, ce que pourrait perdre Bill Bader, le cultivateur. Pourtant, n'utilise pas le dicamba, le mâle serait venu des cultures voisines, du coton traité avec cet herbicide aussi populaire que controversé et qui se serait répandu dans ses vergers. Cette histoire, le jury d'un tribunal du Missouri a donc décidé de la croire. Bayer et BASF ont été reconnus coupables de négligence, mais aussi d'avoir favorisé un désastre écologique pour augmenter leurs profits. Les deux groupes, eux, annoncent faire appel. Leur produit, assure-t-il, est sans danger tant que les utilisateurs en suivent les instructions. Ils ont été condamnés, quoi qu'il en soit, à verser 265 millions de dollars à Bill Bader. Première décision de justice à viser le dicamba. Et l'affaire pourrait faire boule de neige. Près de 150 plaintes ont été lancées contre l'herbicide, sans compter des dizaines de milliers d'autres contre le Roundup. Le mois prochain, Bayer, par ailleurs, devra se défendre lors d'un procès inédit. Le groupe est accusé d'avoir dissimulé les risques d'un dispositif de contraception permanente. Là aussi, des milliers de plaintes ont été déposées.
Loïc Loury, à New York pour France Culture. Il y a un an, le pape François convoquait un sommet des évêques du monde entier sur les abus sexuels dans l'Église. Depuis, que s'est-il passé? L'association américaine Bishop Accountability, qui se bat depuis près de 20 ans pour les victimes, vient de tirer un premier bilan. Elle est venue le présenter à Rome, Bruce de Galzin.
Beaucoup de paroles, quelques actes, comme la fin du secret pontifical pour les cas d'abus sexuels sur mineurs. Mais dans les faits, l'Église n'avance pas assez vite. Selon Phil Saviano, lui-même abusé par un prêtre, il est membre de l'association américaine Bishop Accountability, responsabilité des évêques. Il a cru que François autoriserait l'ordination d'hommes mariés, une solution selon lui.
J'avais vraiment bon espoir que cette exception soit autorisée parce que j'y crois beaucoup. Et une nouvelle fois, j'ai été très déçu. Si le pape François n'est pas capable de franchir cette étape plutôt simple, je ne lui fais pas confiance pour résoudre le problème des abus sexuels du clergé.
Aux États-Unis, 7000 prêtres sont accusés d'abus sexuels selon les chiffres de l'association. En France, pas de chiffres, mais un cas emblématique selon la co-directrice de Bishop Accountability, Anne Barrett Doyle, l'affaire Barbarin.
Je pense que le cardinal Barbarin devrait être révoqué en tant que cardinal et même en tant qu'évêque. Parce que lorsqu'un évêque arrive dans un diocèse, il est de sa responsabilité de vérifier qu'il n'y ait pas d'agresseurs sexuels dans son personnel.
Selon l'association, tant qu'une ONG ou un média n'a pas enquêté pour sortir une affaire, les évêques restent en place et les prêtres ne sont pas inquiétés.
Demain mardi, le temps sera mitigé. Les averses alterneront avec les éclaircies. Au lever du jour, il fera 1 à 10 degrés. Les maximales atteindront 9 à 11 degrés sur la moitié nord, 11 à 18 sur la moitié sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.